Radio Lab.
La radio
du lycée André Bouloche.
C'est bon là?
Du lycée André Bouloche.
La radio du lycée André Bouloche.
Radio du lycée André Bouloche.
En direct
de Radio Tribu.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, Mokhtar et moi, on a voulu s'intéresser à une question importante. Le tabagisme chez les 15-25 ans. C'est un problème qui, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, persiste à menacer la santé des jeunes générations.
Et qui savons-nous de ces problèmes?
Selon la Comité nationale du tabagisme, CNCT, chaque année le tabac est à l'origine de 8 millions de décès prématurés dans le monde. En effet, ce sont plus de 75 000 fumeurs qui décèdent d'une maladie liée au tabagisme.
Et en ce qui concerne la vente des tabacs?
La vente de tabac est interdite aux mineurs de moins de 18 ans. Cependant, les adolescents n'ont aucune difficulté à acheter leurs cigarettes. Selon la Fondation de recherche médicale, près de 6 adolescents sur 10 ont déjà expérimenté le tabac, soit 59% et 17% fument quotidiennement. Pour rendre compte de cette réalité, je suis allé à la rencontre de mes camarades pour tenter de comprendre leur consommation de tabac. Beaucoup ont partagé leur expérience et les raisons pour lesquelles ils ont commencé à fumer. Certains évoquent le stress lié aux études, d'autres la pression sociale. Un tableau de complexe se dessine. Mais une chose est claire, le tabac est un impact significatif sur leur vie.
Place aux jeunes délaissés quand on a été interrogé par moi.
Bonjour, j'ai une question sur les cigarettes. Bah, quand t'as commencé à fumer?
J'avais 13 ans, j'allais au bus scolaire. Et c'est une amie de ma sœur qui m'a proposé. C'était stylé à l'époque.
28 ans. J'ai un doute si c'était la première, mais une des premières, ouais. Je devrais pas le dire, hein, dans les buissons au collège.
J'avais 11 ans en fait. Donc dans la prévention aujourd'hui, ça ne se ferait plus bien sûr, puisqu'à cette époque on fumait dans les voitures, les grand-mères nous donnaient les mégots à fumer, voilà. Donc voilà, il y a en effet quelques années.
C'était je crois au lycée
quand j'étais en 5e.
Depuis à peu près cet été, c'est un ami à moi qui m'en a proposé une et j'ai fumé. C'est de la détente et du partage la plupart du temps.
Depuis 3 ans. À l'époque, je trouvais ça stylé. Donc du coup j'ai commencé à fumer, sauf que c'est pas stylé, parce que je peux plus courir pendant 100 mètres, et que c'est compliqué.
Depuis 2-3 ans, j'ai commencé à fumer la CE, puis après c'est passé à la clope, et après c'était régulier.
Pourquoi tu fumes?
Je sais pas, je suis très anxieuse, du coup ça me détend. Voilà, le stress et tout ça, c'est... bon.
Et est-ce que t'as déjà pensé à arrêter?
Non, pas du tout.
Bien sûr, et j'ai déjà essayé plusieurs fois et ça a marché. Suite à une semaine très compliquée au travail, je me suis laissée tenter. Et puis maintenant, j'aime bien le côté social. Ça permet de prendre des vraies pauses.
Pendant ma grossesse, ouais. Et pas depuis. Mais c'est en cours.
J'ai déjà arrêté de fumer une fois. Voilà. Une fois, j'ai tenu 7 ans, donc c'était très très bien en plus. J'étais libre, libre de la cigarette, ça c'est vrai. Très difficile, mais bon, quand on veut, on peut, hein, c'est ce qu'on dit. Donc c'était très très bien de vivre sans cigarette en fait. Cette emprise constamment de se dire, est-ce qu'il me reste des cigarettes? Il faut que j'aille en fumer une, se séparer des moments qu'on peut avoir, par exemple, à la maison avec les amis, les enfants, etc. Donc ça a été une vraie liberté, cet arrêt de tabac, en effet.
Je me suis mis à fumer la cigarette électronique, et puis je la fume toujours, et du coup je fume plus de cigarettes. Ce qu'on dit, c'est moins dangereux, et t'as pas tous les aspects dangereux, et après tu peux arrêter la nicotine si tu veux à un moment pour plus être addict.
Ça fait un mois, j'ai arrêté. Non, juste du CBD.
Ouais, plusieurs fois, 5 fois. Mais ça n'a pas marché. Mais voilà. Il faut arrêter, hein, vraiment, c'est... Ah, ok.
Merci, parce que moi, j'ai pas envie de fumer, maintenant.
Et quels sont les risques et les conséquences des tabagismes chez les jeunes?
Le tabagisme chez les jeunes est plus qu'une simple habitude. C'est un choix qui peut entraîner des conséquences graves, des problèmes de santé à long terme, tels que les maladies pulmonaires et cardiovasculaires, menacent leur bien-être. Il est crucial de comprendre les risques pour motiver un changement positif.
Est-ce qu'il y a des solutions ?
Eh bien, pour nous aider à répondre à cette question, nous allons accueillir maintenant Madame Laurence Biotto et Monsieur Philippe Moine. Bonjour, pourriez-vous vous présenter ?
Bonjour, donc moi je suis Laurence Biotto, je suis médecin au centre d'examen de santé de la CPAM et j'ai beaucoup travaillé en prévention auprès des jeunes et des adolescents auparavant aussi. Et là on fait beaucoup de bilans de santé de prévention aussi axés adultes et jeunes.
Bonjour, moi je suis donc Philippe Moine, je suis médecin généraliste. Alors j'ai la particularité d'avoir fait une formation pour aider les personnes à arrêter de fumer. Je suis ce qu'on appelle un médecin tabacologue. Et depuis maintenant à peu près 3 ans, j'aide les personnes qui ont envie de les accompagner vers un arrêt, une diminution de leur tabagisme. Voilà, donc je suis médecin généraliste.
D'accord, merci. Merci. Et est-ce que le micro-trottoir vous a fait réagir ?
Alors je prends la parole, Laurence, tu m'arrêtes quand tu veux. Donc oui, c'est très intéressant puisque ça éclaire très bien le problème du tabagisme. On a parlé de notion de liberté, de dépendance, d'addiction. On a parlé de la e-cigarette. On a parlé de beaucoup de choses. Donc j'ai trouvé que le micro-trottoir était très intéressant et éclaire très bien, en introduction très bien le sujet du tabac chez les jeunes.
D'accord, merci.
En général, à quel âge les jeunes commencent à fumer ?
Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Hein. J'ai l'impression que c'est de plus en plus tôt. On en voit pas mal qui commencent, même dès l'âge de 11-12 ans, ça peut arriver. Et on sait que plus on commence tôt, plus le risque de dépendance est important.
Oui, on reviendra sur le terme de dépendance, puisque c'est un terme qui peut être un petit peu difficile à comprendre. Mais il y a un certain nombre de facteurs qui vont faire qu'on va fumer plus ou moins tôt. Le facteur principal, donc vous ne pouvez rien, c'est le facteur familial. Si votre père et votre mère fument, que vos frères et vos sœurs fument, probablement vous aurez tendance, ou pas, mais tendance à commencer à fumer un peu plus tôt que la moyenne des Français et des Françaises.
D'accord. Et pourquoi les jeunes commencent à fumer ?
C'est toujours difficile de répondre à cette question. Je pense que le tabac est d'abord quelque chose de normalisé dans notre pays, avec des hauts et des bas, mais c'est normalisé. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, moi j'ai une école maternelle à 20 mètres de chez moi, et il y a beaucoup d'adultes qui, en attendant la sortie de leurs enfants, fument des cigarettes. Donc ça paraît pas dangereux a priori de fumer, puisque dès leur plus jeune âge, les enfants voient des adultes qui sont des modèles fumer. Donc il y a la normalisation du tabac. Après, il y a plein d'autres facteurs qui font qu'on se met à fumer. C'est aussi pour prendre de la contenance, pour avoir un peu plus d'assurance. Il y a tout ce qui est lié à des moments de convivialité, de fête. C'est-à-dire qu'on fume parce que c'est un moment où on est bien et le tabac, on a l'impression, vient compléter cette impression de bien-être, de fête. Alors que bien évidemment, on va vous l'expliquer, le tabac a des conséquences sur la santé qui sont quand même tout à fait délétères.
Okay. Pourquoi c'est difficile d'arrêter de fumer ?
Moi, je vais te laisser parler, alors, Philippe.
C'est difficile d'arrêter, là. Je vais essayer d'être simple. En fait, très vite, le tabac, selon les personnes, puisqu'on n'est pas tous égaux, on va développer ce qu'on appelle une dépendance. Une dépendance, alors là, je reviens au micro-trottoir, on a dit quand on veut, on peut. Pour le tabac, c'est totalement faux. Une dépendance, c'est-à-dire que quand on veut, on ne peut pas toujours, puisque on peut avoir une tendance à la dépendance, à l'addiction. Et on n'est pas tous égaux pour des raisons diverses, familiales, héréditaires, biologiques, etc. Et donc, il faut, en fait, pour arrêter de fumer, une certaine motivation. C'est le point de départ. C'est toujours difficile d'arrêter de fumer si il n'y a pas un petit peu de motivation. Cette motivation, avec le médecin ou l'infirmière, ou en tout cas le professionnel de santé tabacologue, on va essayer de travailler dessus et essayer de la renforcer. Et il y a deux types de dépendance, pour répondre donc à cette question. Il y a la dépendance qu'on appelle nicotinique, qui va se développer très vite en fumant très jeune, très beaucoup et régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, en fumant, la nicotine qui est située dans la cigarette va venir stimuler une partie de votre cerveau, développer des récepteurs à nicotine. Et en fait, quand vous êtes en manque de nicotine, eh bien, vous vous sentez pas bien. Il y a un mal-être, le fameux mal-être, celui qui se sent pas bien, il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Donc, c'est en fumant qu'il va... En fumant, quand on tire sur une cigarette, il faut 7 secondes, c'est un peu un shoot de nicotine, il va calmer ce manque. Donc tout de suite, il a une impression de bien-être, vous voyez. Donc ça, c'est la dépendance nicotinique, je sais pas si je suis clair, c'est la dépendance un peu chimique. Et puis après, vous avez ce qui est très bien décrit dans le micro-trottoir, la dépendance qu'on appelle comportementale et psychologique, c'est-à-dire qu'on va associer au tabac un certain nombre de choses, telles que le plaisir, le bien-être, la fête, la convivialité, ça peut être le café du matin, mais ça peut être l'apéro du vendredi soir avec les amis. C'est pour ça que vous avez des gens, c'est toujours étonnant qu'ils ne fument pas du lundi au jeudi, des jeunes, hein, souvent des gens qui travaillent, qui vous disent « moi je fume pas du lundi au jeudi, par contre le vendredi je commence à fumer parce que c'est le week-end qui arrive ». Donc on associe le tabac à des moments de bien-être, ce qui fait que quand on fume, quelque part, alors qu'on n'a même pas commencé sa cigarette, quelque part on sait que c'est quelque chose qui va nous apporter une sorte de bien-être. Ce qui est bien sûr, là aussi, une contre-vérité, mais... Voilà, ce sont des paroles. Voilà, donc dépendance nicotinique, dépendance comportementale et psychologique, elles sont souvent très intriquées. Et donc le médecin ou l'infirmière, le professionnel de santé tabacologue va aider à mieux comprendre ce phénomène pour essayer de lutter contre ces phénomènes. Mais lutter contre quelque chose qui donne une impression de plaisir, c'est plutôt compliqué. Voilà, donc la dépendance, les addictions qui sont la source, le socle de cette... c'est pour ça que c'est si difficile d'arrêter de fumer.
Merci. Et comment essayer d'arrêter de fumer ?
Voilà, encore, on a des solutions, Philippe va vous
expliquer. Voilà, on a des solutions, je crois que... Merci Laurence, donc désolé, je parle beaucoup, mais oui, bien sûr qu'il y a des solutions. Donc la première chose, c'est d'avoir des campagnes de santé publique régulièrement autour du tabac. C'est ce qui se fait, ça se fait sur TikTok, sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio. Bon, là, sur les jeunes de 15-25 ans ou 15-30 ans, c'est plutôt les réseaux sociaux. Moi, je les connais pas très bien, mais j'imagine que la santé publique, c'est en fait un pays qui décide de faire en sorte que sa population se porte bien et ne tombe pas malade trop tôt et voilà, n'ait pas trop de symptômes de maladie. Donc il y a des campagnes de santé publique sur les réseaux sociaux, je pense, pour faire réfléchir les jeunes qui fument à comment faire pour arrêter de fumer. Donc la question, c'était comment faire pour arrêter de fumer. C'est d'avoir envie un petit peu, d'avoir un peu de motivation, de rencontrer son pédiatre, son médecin traitant, ou ça peut être une gynécologue, une sage-femme, son dentiste, son kiné, un professionnel de santé, celui qui s'intéresse à votre santé, pour réfléchir à ça. On peut en parler avec ses amis, sa famille, ses parents, et se faire aider et accompagner. Et après, vous avez donc des méthodes validées. Alors, je fais une petite parenthèse. Méthodes validées, c'est-à-dire que nous sommes des scientifiques. Donc, malgré notre... Voilà, on a un côté scientifique et on va utiliser des méthodes qui ont été prouvées par des études qui ont été faites soit en France, soit en Europe, soit dans le monde entier, comme étant, montrant qu'il y avait des résultats probants. Il y a des méthodes qui sont moins prouvées, mais qui sont quelquefois efficaces pour telle ou telle personne. Donc les deux grandes méthodes pour arrêter de fumer, c'est, première méthode, c'est ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives, donc un mot compliqué. En fait, ce sont une méthode de discussion, de psychologie, pour aider la personne à réfléchir sur sa façon comportement et sa façon de fumer. On appelle ça les TCC, thérapie comportementale et cognitive. Ça, c'est validé dans plein de pays du monde. Et puis, il y a les substituts nicotiniques, les fameux patchs, les gommes, tous les produits que vous avez dû voir, qui apportent la nicotine au niveau de votre cerveau, d'abord en passant par la peau ou la bouche, ensuite le sang et ensuite le cerveau, et qui vont justement calmer ce manque de nicotine si vous ne fumez plus. Donc, quand vous décidez d'arrêter de fumer, le médecin va essayer d'évaluer votre dépendance à la nicotine. Et s'il considère qu'il y a clairement une dépendance à la nicotine, il va vous proposer d'utiliser ce qu'on appelle des traitements substitutifs à la nicotine, le patch étant le plus connu, mais il y a aussi des gommes, et des bonbons à la menthe, etc. Voilà, donc substitution nicotinique, accompagnement psychologique dans un esprit surtout d'écoute, de bienveillance, d'absence de jugement. Alors ça, j'insiste beaucoup, hein. Moi, je suis pas tout jeune, donc j'ai connu où les professionnels de santé disaient « c'est pas bien de fumer », on sait que ça ne marche pas. On dit plutôt « raconte-moi ton tabac, parle-moi de ton tabac ». On raconte la vie un petit peu, on parle avec la personne donc jeune, et on lui demande un petit peu de savoir où elle en est et qu'est-ce que ça représente pour lui de fumer. Alors, je parle du tabac, mais bien sûr, souvent on va être amené à parler du cannabis, et puis des autres produits, hein, il n'y a pas de tabou, hein. Je pense que les professionnels de santé n'ont aucun tabou, donc tabac, cannabis ou autre produit. On est là dans ou une alcool. Posture de ou alcool. Et on est dans une posture surtout de bienveillance, d'écoute, d'accompagnement. On a le temps, on prend le temps. Et puis, on sait très bien qu'on peut avoir des moments difficiles dans sa vie, de pas être prêt par moment ou d'être plus ou moins prêt par d'autres. Donc, on va accompagner la personne en face de nous. Alors, l'objectif, c'est une diminution, puis bien sûr, un arrêt définitif pour protéger la santé.
Mais on sait que ça marche mieux quand on est accompagné, de toute façon.
Merci. Quels sont les impacts du tabac sur la santé?
Alors, les impacts du tabac sur la santé sont assez simples. Il y en a trois thématiques. La première thématique, celle qui fait peur, en tout cas, si vous avez été autour de vous touché par ça, par un de vos proches plus âgés, vous connaissez, c'est le cancer. Le tabac est clairement un co-carcinogène, c'est-à-dire que le fait de fumer vous expose, surtout si vous fumez donc beaucoup et longtemps, vous expose beaucoup plus à des cancers. Le cancer le plus connu, c'est le cancer du poumon. C'est un cancer qui touche malheureusement des gens qui ne sont pas très âgés, hein, qui vont se retrouver avec des cancers assez jeunes, dès l'âge de 45-50 ans. C'est une maladie très grave, avec des traitements très lourds, très invalidants. Donc les cancer du poumon, mais cancer de la gorge, cancer de la vessie, ça augmente le risque de cancer du sein, le cancer du col de l'utérus pour les jeunes femmes. Faut le dire, beaucoup de cancers, c'est un co-carcinogène. Deuxième thématique, c'est les maladies respiratoires. Donc vous connaissez peut-être l'asthme. Je ne sais pas si vous avez autour de vous des personnes qui prennent de la ventoline. Eh bien, le tabac, on développe avec le temps ce qu'on appelle la bronchite chronique, ce qu'on appelle la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Ce sont des gens qui arrivent au moment de la retraite, vous savez, ils ont envie de profiter de leur retraite. Et là, ils vont se retrouver très essoufflés, c'est-à-dire qu'ils veulent aller jouer au foot avec leurs petits-enfants, mais ils peuvent pas. Puisque au bout de 20 mètres, ils sont très essoufflés et on est très gêné pour les soulager. Donc, il existe des médicaments, mais pas toujours efficaces. Et ça peut même être quelquefois se poser la question d'une greffe au niveau de leurs poumons. Donc, une maladie très, très invalidante, handicapante. Hein. Et puis, la troisième thématique dans les maladies liées au tabac, c'est les maladies, ce qu'on appelle cardiovasculaires. C'est des maladies qui touchent plutôt la tranche d'âge, on va dire 45-50 ans, 90 ans, c'est une maladie qui donne des infarctus, c'est des artères qui se bouchent au niveau du cœur et qui sont quelquefois mortelles. C'est des gens qui se portent bien à 45 ans et qui du jour au lendemain, en quelques minutes, vont décéder à cause du tabac. Les infarctus touchent des gens jeunes, les infarctus liés au tabac, c'est plutôt une population qui soit jeune. Donc les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, vous savez, les gens qui perdent l'usage de la parole, une partie de leur corps. Donc ça, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc vous avez eu trois thématiques liées, trois impacts du tabac sur trois thématiques.
Autre chose, on sait aussi que par rapport à l'acné, le tabac peut aggraver l'acné. Et puis, il y a aussi un impact sur les dents aussi et sur les gencives.
Oui, et je rajouterais, oui, ça y est, j'y pense, oui, tu veux très bien, on a parlé des dents, parce que c'est vrai, quelquefois, ça aggrave vraiment les problèmes dentaires des personnes qui sont jeunes. Et puis, sur la sexualité, puisque le tabac aussi, chez certains, va avoir un impact avec ce qu'on appelle une dysfonction érectile chez les garçons, c'est quand même, voilà, il faut le dire. Donc, des problèmes d'érection, des problèmes, voilà, on a une sexualité qui est pas toujours au top. Et le simple fait, quelquefois, de réduire ou d'arrêter son tabagisme va probablement améliorer cette fonction érectile. Donc, ça, c'est toujours intéressant de le dire, on n'y pense pas. J'ai eu un déclic et donc voilà, je vous en parle.
Merci. D'accord, merci. Et quels sont les impacts qui a été le plus touché par le tabagisme?
Alors, j'ai pas bien saisi la question.
Par rapport à l'âge.
Alors, touché par le tabagisme, je sais peut-être que Laurence va m'aider à répondre, mais les études montrent que les campagnes qui sont nombreuses, les campagnes de santé publique, celles que fait le gouvernement ou le ministère de la Santé ou tous les organismes qui s'occupent de la santé des jeunes ou des moins jeunes, montrent que les messages de santé publique pour aller vers l'arrêt du tabac touchent plus, si vous voulez, les populations, on va dire, c'est terrible hein, ce que je vais dire, mais plus les gens qui ont fait des études et touchent moins les personnes qui viennent, si vous voulez, qui ont fait moins d'études. On ne sait pas trop bien pourquoi, peut-être que Laurence pourra... Mais c'est vrai que ce sont les chiffres. Et on a du mal à quelquefois toucher des personnes qui sont plus dans la précarité, dans des difficultés sociales, des difficultés de travail, des difficultés en général, de logement, etc. Comme si vous voulez, moi j'ai souvent entendu alors, dans mon cabinet des femmes ou des hommes qui me disaient de toute façon il me reste plus que ça, le tabac. Donc c'est vrai que quand on est médecin et qu'on a une personne en face de soi qui a voilà qui quel que soit son âge et qui me dit moi de toute façon le seul plaisir que j'ai dans la vie maintenant c'est de fumer, c'est compliqué pour nous d'aller vers l'arrêt du tabac puisqu'on va vers quelque chose qui est leur seul peut-être plaisir, en tout cas leur, c'est l'impression qu'ils ont, et donc c'est compliqué, mais ceux qui sont le plus touchés par le tabac c'est je sais pas comment répondre, mais ceux en tout cas qui répondent le moins bien au message de santé publique pour l'arrêt du tabac c'est malheureusement les populations les plus précaires, les plus en difficulté. Et il semblerait que ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de pays du monde. Moi, je pense à la Grande-Bretagne, j'avais lu une étude il y a quelques années où les populations les plus pauvres, les plus en difficulté, avaient plus de mal à arrêter de fumer. D'où des campagnes qu'il faut avoir vraiment une réflexion globale sur la prise en charge globale. C'est-à-dire que il faut aider ces personnes à aller vers l'arrêt du tabac, mais il faut aussi les aider à trouver un emploi, à se sentir bien, à avoir un logement correct. C'est-à-dire que là, on inscrit le tabac, l'arrêt du tabac dans une vraie politique sociale et globale. Voilà. Donc, faut savoir qu'en face, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler, mais vous avez une industrie du tabac qui est extrêmement puissante, une industrie marketing, qui eux n'ont rien à foutre de votre santé, ça je faut le dire. Eux, ce qui leur importe, c'est de gagner beaucoup d'argent, mais beaucoup. Ils en gagnent beaucoup, beaucoup. Vous pouvez pas imaginer. Ça fait 50 ans que les grandes compagnies qui fabriquent des cigarettes sont, la plupart des cadres supérieurs gagnent des sommes, c'est pas Mbappé, mais pas loin. c'est que j'azère, mais je crois qu'il faut, quand vous fumez, vous faites quelque chose qui est malheureusement, qui enrichit des gens qui sont déjà très riches. Et dès que les marchés du tabac sont moins bons dans une région du monde, ils vont dans des régions, sur d'autres régions du monde, ils vont vendre leurs cigarettes encore moins chères. Moi, je suis allé en Asie plusieurs fois et, voilà, ils vont rendre addicts des populations très jeunes, hein, les paquets de cigarettes sont très peu. Donc en Indonésie, etc., dans tous ces pays-là, et vous avez des. Et une fois que vous êtes devenu dépendant, c'est très difficile d'arrêter. Sauf que ces gens jeunes qui ont fumé de jeunes vont avoir beaucoup de mal à arrêter et vont mourir jeunes. Donc vous voyez, c'est des politiques quand même de marketing de l'industrie du tabac qui sont terribles.
Est-ce que l'on peut considérer les tabacs comme une drogue ?
Je pense qu'on peut dire oui.
À votre avis ?
Bah oui.
Ouais, on est tous d'accord. Parce que bon, la réponse, on peut la partager. Mais après, c'est une sorte de connotation. Mais c'est une drogue. C'est une drogue en vente libre. Mais c'est une drogue. Et je trouve toujours intéressant, puisqu'on parle souvent du cannabis avec tout le côté politique de la chose. Hein, eh bien, le tabac est clairement une drogue, oui. Je pense qu'on est tous unanimement d'accord.
D'accord. Merci. Et pourquoi avoir conçu un produit aussi toxique et dangereux pour la santé ?
Je crois que Philippe a déjà répondu quand il a parlé de l'industrie du tabac.
Oui. Alors en fait, il y a aussi, quand on fait un diplôme de tabacologie, je termine là-dessus, il y a toute une histoire. Le tabac, c'est une plante, oui, qui est cultivée depuis de très très longues dates et qui est venue en France, entre autres, alors je parle de la France, par monsieur Nico, je sais plus comment il s'appelait, mais je pense qu'on s'est parlé de nicotine, mais c'était très à la mode de fumer au 18e siècle, au 19e siècle. Il faut savoir que si un jour vous avez le temps, regardez l'histoire du tabagisme en France, c'est tout à fait intéressant, et il y a des périodes comme ça. Donc la question que vous posiez, c'était, le tabac c'était naturel, hein, il y a toujours eu des feuilles de tabac, et il y a des agriculteurs qui vivaient grâce à ça. Et c'est après, bien sûr, tous les produits qu'on met dans la cigarette qui sont, tout ce qui va avec, qui fait que vous devenez dépendant et que vous tombez malade.
D'accord, merci. Quelles sont les maladies les plus fréquentes que c'est par les tabacs ?
Alors, je cherche.
Alors, on a déjà répondu, ouais, je pense, auparavant. Comme tu disais, le cancer, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes pulmonaires.
Ce qu'il faut tout de suite vous dire, alors je vais être prudent dans ce que je vais dire, mais les maladies liées au tabac sont globalement des maladies qui apparaissent avec le temps. C'est-à-dire que si vous commencez à fumer à 16 ans ou 18 ans, vous ne tomberez pas malade à 22 ans. Vous allez plutôt, ça peut aggraver un asthme par exemple, mais ce sont des maladies qui vont vraiment commencer à s'installer avec le temps, c'est-à-dire que c'est plus on fume longtemps et plus on va avoir des maladies. Et le deuxième facteur, c'est plus on fume beaucoup, plus on va avoir des maladies. Mais sur l'infarctus du myocarde des gens jeunes, ce sont des gens qui fument que depuis une vingtaine d'années, ce qui est pas énorme, hein, de l'âge de 20 ans à 40 ans, et qui vont faire un infarctus pour certains mortel, alors qu'il n'y a que 20 ans de tabagisme. Le piège qu'il faut tout de suite dire, c'est que plus vous fumez, plus vous allez devenir dépendant. et plus ça va être difficile d'arrêter. C'est pour ça que, vous voyez, on est aujourd'hui ici pour en parler, c'est de vous faire réfléchir, hein, tous vos amis, vos proches, vos parents, vos amis, ben, votre famille, à pourquoi je m'arrêterai pas. Hein, et voilà, on verra ensemble peut-être dans les quelques minutes qui nous restent, qu'est-ce qui peut motiver à une diminution, un arrêt du tabac.
D'accord, merci beaucoup.
Et quels sont les produits principaux présents dans la cigarette?
Alors, pour simplifier, la nicotine, la fameuse nicotine, qui n'est pas, alors attention, je vais vous surprendre, mais la nicotine n'est pas dangereuse pour la santé. Elle n'est pas dangereuse pour la santé, la nicotine, c'est elle qui va faire que vous devenez dépendant. Donc elle est dangereuse quelque part parce que vous devenez dépendant, mais la nicotine, supposons, je vais vous donner un exemple, que vous preniez de la nicotine pendant des années, probablement vous ne tomberez pas malade. Vous serez juste dépendant, vous allez entretenir votre dépendance à la nicotine. Donc la nicotine n'est pas dangereuse. Et puis vous avez deux autres choses importantes. Vous avez tous les goudrons, les benzènes, les produits chimiques. On dit qu'il y en a entre 4000 et 8000 dans les cigarettes industrielles, même dans le tabac à rouler, il y en a beaucoup. Donc ces produits chimiques, c'est eux qui favorisent, si vous voulez, toutes les maladies dont on a parlé, respiratoires, cardiovasculaires et cancéreuses. Et puis vous avez quelque chose qui est peu connu aussi, ce qu'on appelle la combustion. Quand vous, parce qu'on va parler de la vapoteuse, la combustion, c'est quand vous tirez sur une cigarette, quand vous, voilà, vous tirez, il y a une combustion qui se fait. Et cette combustion, elle a un rôle très toxique sur le système cardiovasculaire. Et c'est elle qui favorise les fameuses maladies cardiaques, l'infarctus, qui touche quelquefois des adultes assez jeunes. Voilà, la combustion, les produits chimiques, benzène, goudron, etc., qui favorisent plutôt les cancers, pour simplifier. Et puis la nicotine qui, elle, favorise la dépendance.
D'accord. Pourquoi les gens savent que les cigarettes est un produit dangereux et qu'ils continuent à fumer quand même?
Ah, ça c'est très bonne question. Toutes vos questions sont parfaites. Ben, c'est ce qu'on appelle la dépendance. Vous savez, c'est vraiment la fameuse définition de la dépendance et de l'addiction. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pas bon pour la santé, mais parce qu'on le sait, parce qu'on voilà, on l'a lu, on nous le répète, votre médecin vous l'a dit, le pédiatre l'a dit, enfin, bref, tout le monde vous le dit autour de vous, mais c'est plus fort que soi, c'est le propre vraiment ce qu'on appelle de la dépendance ou de l'addiction pour simplifier, et malgré que bah on sait que c'est pas bon, à la fois on l'a associé, comme je vous disais, c'est la dépendance psychologique et comportementale, on l'a associé à des moments qu'on aime bien, le café, la bière, le vin blanc, les amis, les retrouvailles, la détente, les copains, donc on l'a associé à ça, donc hop, automatiquement sans réfléchir, notre comportement va être d'allumer une cigarette dans des moments qui, où on réfléchit même pas, on sait que ce moment-là déclenche la cigarette, et puis il y a la fameuse dépendance à la nicotine, c'est que si vous fumez déjà depuis quelques années, 3-4 ans, et que vous fumez beaucoup, très vite, si vous ne fumez pas, vous allez vous sentir mal, vous aurez une sensation de malaise avec des tremblements, des transpirations, une sensation de mal-être, ce qui fait que la seule réponse à ce mal-être, ça sera de fumer une cigarette. Voilà. Donc c'est ça qui entretient votre tabagisme. Et vous savez que c'est pas bon pour la santé, mais en France, vous avez dit les chiffres, on est autour de 15 millions de fumeurs, ce qui est beaucoup hein, quand même, qui sont... Voilà, c'est quand même à souligner. Et vous dites que dans ces 15 millions de fumeurs, il y a quasiment 15 millions de gens qui savent que c'est pas bon, mais qui fument quand même. Donc, rien d'extraordinaire quelque part.
D'accord, merci.
Et comment peut-on inciter les jeunes à ne pas fumer?
Ben ça, je pense qu'on pourrait vous retourner à tous la question, parce que je pense que l'intérêt, c'est de partager nos connaissances, les voilà, d'interagir entre nous. Mais je pense que vous avez peut-être vous-même la réponse à cette question. Bien sûr, vous n'êtes pas professionnel de santé, mais vous êtes des citoyens. Vous avez autour de vous des amis, de la famille, des voisins qui fument sûrement. Peut-être que vous avez des idées, et toutes les idées sont bonnes à prendre. Moi, je suis vraiment là-dedans. Ben, moi et la plupart des professionnels de santé, on est dans l'idée de réfléchir. Globalement, les campagnes, ce qu'on appelle de santé publique, ne fonctionnent pas très très bien chez les gens jeunes, puisqu'il y a un goût, ça je pense que Laurence pourra peut-être en parler, elle était médecin scolaire, des adolescents, en tout cas pour le RIS, pour le, je ne sais plus quel terme employer, mais de faire du, voilà, d'aller... en dehors des normes, de faire des choses un peu, voilà, et je pense que voilà, Laurence, tu veux peut-être rebondir, réagir sur pourquoi les jeunes, c'était...
Oui, puis il y a toujours envie de tester un petit peu l'interdit aussi, voilà. Aller, voilà. contre la norme.
Là, c'est un peu une forme de, alors c'est une forme de rébellion contre, si vos parents vous ont dit qu'il fallait pas fumer, que c'était pas bon, bah, quelque part on est tous passés par là, bah, puisqu'on nous a dit que c'était pas bon, bah justement je vais fumer, vous voyez, c'est une forme de, d'aller contre la norme.
D'accord. Et quelle est la différence entre une cigarette classique et une cigarette électronique?
Alors dans la cigarette électronique il n'y a pas de combustion.
D'accord.
Oui, voilà. Donc, dans la cigarette, ce qu'on appelle la vapoteuse, dans la cigarette électronique, c'est de la vapeur d'eau. Donc, il n'y a pas de combustion. Donc, il n'y a pas, du coup, le risque cardiovasculaire qui est là. Les études, globalement, montrent que la vapoteuse est de toute façon moins dangereuse que la fumée de cigarette. Voilà, déjà ce qu'on peut dire. Selon les régions du monde, on va être plus ou moins... parce que pour moi, il n'est pas validé en France. C'est-à-dire qu'un professionnel de santé qui vous propose d'arrêter de fumer, qui vous accompagne dans l'arrêt du tabac, va pas vous proposer la vapoteuse. Par contre, il y a des pays comme en Grande-Bretagne, où ils sont un peu plus vapoteuses que nous, les professionnels de santé. Donc voilà. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a eu en plus un document du Haut Comité de Santé Publique qui dit qu'il faut rester prudent. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la vapoteuse peut être pour certains, un moyen plutôt efficace. Et peut-être que autour de vous avez des personnes qui ont témoigné dans ce sens, pour aller vers une diminution puis un arrêt du tabac. Donc à partir du moment où cette vapoteuse vous a permis d'arrêter de fumer, on peut considérer que c'est, voilà, c'est toujours intéressant à pourquoi pas expérimenter. Mais tout le monde ne réagit pas de la même façon aux vapoteuses. Vous avez des personnes qui ont du mal. Donc ne pas hésiter à bien se faire conseiller, à prendre des produits validés avec la norme AFNOR, etc. Mais la vapoteuse contient beaucoup moins, même si ça contient des produits entre guillemets chimiques, et semble-t-il beaucoup moins dangereuse, voire voilà. Mais le recul reste un petit peu limité puisqu'il est d'une dizaine d'années.
D'accord, merci.
Et vous, aviez-vous déjà fumé?
Moi, oui. Oui, j'aimais bien ça. Hein. J'étais un petit peu dépendante quand même. Mais je suis très, très contente d'avoir réussi à arrêter. Et dans le petit reportage là, que vous avez fait au début, quelqu'un a parlé de liberté. Et c'est vrai que j'ai un sentiment de liberté depuis l'arrêt qui est quand même très important.
Laurence a tout à fait raison d'insister sur le mot de liberté. Qu'est-ce que c'est terrible d'être dépendant de quelque chose, quel qu'il soit. Je crois que le mot liberté, il a un sens tellement fort dans le monde entier, que d'être libre par rapport au tabac et de pouvoir arrêter pour se sentir plus libre de cette dépendance au tabac, c'est vraiment énorme. Donc moi, pour répondre à votre question, bien évidemment, pour la petite histoire, dans les années 70-80, dans les hôpitaux, hein, quand vous faisiez des études de médecine, moi je pense toujours au service des urgences de Nantes, qui était un lieu de pause, c'était le plafond était jaune, et tout le monde fumait, médecins, infirmières, tout le monde fumait, c'était une époque où tout le monde fumait, bon, on va pas revenir en arrière, mais vous pouvez pas imaginer, vous regardez des films des années 70 où tout le monde fume, et alors là on fumait beaucoup, et donc dans les hôpitaux aussi, et moi j'ai fumé, en fait c'est à la naissance de mon premier garçon, en termes de modèle, et puis en tant que médecin, je me suis dit que c'était pas mal d'avoir une sorte d'image, de modèle, de pas sentir trop la cigarette. Donc ça peut être, j'avais pas une dépendance par contre. Moi je fumais vraiment de façon dans les soirées, dans les fêtes, voilà, parce que j'aimais bien faire la fête, parce que j'aime toujours faire la fête, mais sans tabac.
D'accord, bah, merci beaucoup Laurence Biotto et Philippe Moine d'être venus y répondre à nos questions.
Merci à vous.
Ouais, bah merci à vous et merci de votre accueil.